Parole d'auteur. Parole d'auteur, Philippe Gilbert.
Qui dit âme sœur pense souvent connivence, complémentarité, affinité sentimentale. Et si une âme sœur, c'était davantage encore? Par exemple, des liens indéfectibles pouvant relier une âme à l'autre, des liens capables de faire circuler l'amour comme par magie, des énergies et des vibrations permettant de communiquer au-delà de la séparation. Speranza et Lucia ont leur cœur relié par des fils d'or depuis leur enfance, cadeau magique offert par leur marraine Zia Rita. Ce présent va leur permettre d'affronter la vie et de choisir d'écrire leur histoire en accord avec leur moi profond. Plus que des âmes sœurs, elles sont des sœurs d'âme, ce qui les protégera, car elles pourront toujours compter l'une sur l'autre à condition toutefois de respecter un secret que vous propose de découvrir Stéphanie Antonucci dans son roman « Sœurs d'âme » paru en 2023. Bonjour Stéphanie Antonucci.
Bonjour Philippe, merci beaucoup de m'accueillir à votre micro. Je sais que si vous m'avez invité, c'est parce que vous avez voyagé vous-même en compagnie de Lucia et Speranza. J'en suis donc très touchée.
Bien, alors, merci en tout cas de venir dans Parole d'auteur. Première question, je voudrais savoir, effectivement, vous me dites que j'ai dû sentir et ressentir, vous faites sans doute appel ou écho à certaines vibrations, termes sur lesquels on reviendra plus en détail. Et donc, je voulais simplement vous demander si, a priori, en entrant dans ce studio, vous percevez de bonnes vibrations.
Oui, je me sens très très bien. Très bien accueilli, une bonne énergie et beaucoup de calme et de paix.
Alors nous allons continuer sur ce registre. Alors je voudrais préciser à nos auditeurs que vous êtes enseignante de profession. Oui. Quel type d'enseignement ?
Je suis enseignante en école élémentaire depuis près de 20 ans et j'écris également. Donc je pense pouvoir dire que ce qui réunit mes deux activités, c'est vraiment ce que je donne tous les jours. Le regard que je pose sur l'existence et que je transmets, que je fais vivre chaque jour à mes élèves, en toute modestie bien sûr. Et au travers de mes écrits, ce sont les émotions que j'essaye de donner, que j'essaye de faire germer dans les cœurs de mes lecteurs.
Effectivement, vous insistez, je l'ai vu plusieurs fois, vous... sur le fait de susciter l'émotion dans le cœur des personnes qui vous liront. Ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Et vous avez expérimenté l'écriture depuis quand ?
Alors, j'écris depuis toujours. Enfin, depuis que je sais écrire, depuis que j'ai 6-7 ans. Alors évidemment, enfant avec les mots qui sont à notre disposition, des tout petits textes, des petites histoires. J'étais une enfant insomniaque. Et donc, je me relevais la nuit, j'écrivais sur des petits carnets. J'ai continué quand j'étais adolescente et personne ne le savait. Je faisais ça vraiment en cachette. Et je peux dire que mon rêve d'enfant, c'était d'écrire un livre et de le tenir entre mes mains. Donc, Sœur d'âme, c'est ce rêve. Parce que jusque-là, jusqu'à il y a 3 ans, j'ai toujours écrit. J'ai écrit des débuts d'histoire, j'ai écrit des chapitres 1, des chapitres 2... Et je n'ai jamais abouti. Et puis, c'est passé vraiment quelque chose, une forme d'accélération, des événements aussi qui se sont enchaînés depuis 2021, qui ont fait que j'ai osé et que j'ai écrit un livre en entier, qui n'est pas celui-là, qui est un récit de vie. Et ce récit a tout déclenché, parce que je l'ai partagé. Alors, évidemment, je n'ai pas publié, c'était très intime, très personnel. Je l'ai partagé vraiment aux personnes les plus chères de ma vie. Et les retours que j'en ai reçus, les émotions qu'il a suscitées, des bouleversements même dans le cœur de ses lecteurs, qui étaient des êtres très proches, hein, des personnes proches. Les mots qu'ils m'en ont renvoyés ont été de tels cadeaux pour moi que je me suis dit, en fait, je ne veux plus jamais arrêter et je veux écrire d'autres livres. Et la question à ce moment-là, donc en 2021, c'était, est-ce que je saurais écrire un roman, une histoire totalement fictive ? Et je l'espérais. Et en fait, je n'y ai pas vraiment réfléchi. L'histoire de Lucia et Speranza m'est véritablement tombée dessus.
Alors, est-ce que ce premier roman à quelque chose de, d'autobiographique et n'est pas loin trop, de, trop éloigné de votre histoire, ou c'est quelque chose qui est complètement déconnecté, notamment par rapport au premier écrit auquel vous venez de faire allusion?
Alors, Sœur d'âme, c'est vraiment un roman. C'est une fiction, ce sont des personnages. Évidemment, lorsqu'on écrit, alors je peux parler pour moi, mais pour avoir parlé avec d'autres auteurs, je sais que dans chaque livre qu'on peut écrire, on met beaucoup de soi. Donc, il y a beaucoup de moi dans Sœur d'âme, c'est certain, dans les traits de personnalité. Avec le recul aujourd'hui, et puis aussi parce que des personnes qui me connaissent très très bien, mes amis, les personnes qui me côtoient tous les jours, mes parents, mon frère, ma sœur, enfin toutes les, vraiment les personnes les plus proches, celles qui partagent ma vie et qui me connaissent si bien, en l'ayant lu et en parlant avec moi ensuite, m'ont tout de suite dit « mais tu es les deux, tu es Lucia et tu es Speranza ». Alors, sur le moment, je me suis dit, ben non, en fait, j'ai pas écrit mon histoire. J'ai inventé cette histoire en forçant peut-être sur certains traits de personnalité. Et aujourd'hui, avec le recul, je me dis, ben en fait, oui, ils ont raison. Il y a beaucoup de moi dans Lucia, qui est peut-être la personnalité, les traits de caractère que l'on voit le plus de moi aujourd'hui, ce côté lumineux. Et il y a énormément de moi dans Speranza. Alors, sans tout dévoiler aux auditeurs, Speranza est celle qui a le côté le plus sombre, qui a vraiment une personnalité très introvertie, où il y a beaucoup de colère. Quand on me connaît aujourd'hui, on se dit non, ce n'est pas elle. Mais j'ai été comme ça aussi à certains moments de ma vie. Donc, je crois que Lucia et Speranza sont la réunion de toutes mes facettes. Pour autant, ce n'est pas mon histoire.
Mais on peut peut-être aussi imaginer que de toute façon, en chacun d'entre nous, il y a une facette lumineuse, une facette sombre ou moins lumineuse, de toute façon.
Bien évidemment, nous avons tous nos failles, nos parts d'ombre, et tout l'apprentissage de la vie finalement, toute la recherche d'équilibre que nous avons, et de mettre de la lumière sur ces parts plus sombres et d'aller chercher... là où la petite flamme vacille, pour peut-être lui faire prendre plus de place et ensuite essayer de la faire rejaillir sur le monde alentour.
Alors, sœur d'âme, je me suis essayé à donner une petite définition. Tout à l'heure, peut-être que vous pourriez nous donner la vôtre.
Sœur d'âme, c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre dans ce roman. C'est d'expliquer... Enfin, en tout cas, de transmettre l'énergie qu'il peut y avoir quand on a un lien très fort avec quelqu'un. Alors, on parle de sœur, certains parlent de sororité. Aujourd'hui, c'est un mot très à la mode, qui est presque, dans notre société, réservé à un côté féministe. Moi, vraiment, j'y vois... J'aurais pu parler de frères ou d'amis très proches, hommes ou femmes, d'ailleurs. J'ai vraiment essayé de retranscrire l'énergie qu'on peut... ressentir lorsqu'on est lié à quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit un ami, un frère ou une sœur de sang, que ce soit un enfant, quelqu'un avec qui on a partagé sa vie, et dire que ce lien, quoi qu'il devienne avec les expériences de vie que nous traversons, si ce lien un jour a été très très fort, pour moi il ne peut pas disparaître. Parfois, la vie nous éloigne des personnes que l'on a aimées. Parfois, on se dispute. Parfois, il y a des drames qui font qu'on ne se voit plus ou qu'on est éloigné à des milliers de kilomètres. Parfois, on est juste à quelques kilomètres, mais c'est comme si la distance était un abîme. Je crois profondément que s'il y a eu un lien d'amour, un amour avec un grand A, l'amour que l'on peut ressentir pour toute personne chère, je pense que ce lien ne peut pas disparaître et qu'à tout moment, quelque chose peut arriver, une petite étincelle, un murmure de son âme, c'est ce que j'en parle souvent dans le livre. Quelque chose peut arriver qui fait que ce lien peut se nourrir à nouveau.
Et être réactivé.
Finalement. Et être réactivé.
Alors, dans l'épigraphe que vous avez placé en tête de votre livre, vous faites allusion à la notion de miroir ou d'effet miroir par rapport à à ce binôme de dames-sœurs. Et vous citez donc une dame qui s'appelle Elisabeth Gilbert. Vous dites « Les gens pensent qu'une âme-sœur est une association parfaite et tout le monde lui court après. En fait, l'âme-sœur, la vraie, est un miroir. C'est la personne qui te montre tout ce qui t'entrave, qui t'amène à te contempler toi-même afin que tu puisses changer des choses dans ta vie. » Donc un effet miroir qui doit pouvoir se révéler utile pour la personne elle-même.
Oui, un effet miroir parce que quand on est très très lié à quelqu'un, qu'on a une âme sœur, celle-ci est là dans toute son authenticité, dans toute son honnêteté, dans toute sa sincérité, puisque c'est pour moi vraiment le point d'orgue d'une amitié ou d'une histoire d'amour ou d'un lien fraternel. Et donc, cette sœur d'âme, cette âme sœur, est là pour dire ou pour révéler ou pour montrer ce qu'il y a de magnifique en l'autre, mais également ce qui ne va pas, ce qui est plus sombre. Et en lui montrant aussi ses parts d'ombre, elle peut l'aider à creuser dans ses parts d'ombre, à aller chercher vraiment toute l'essence de ce qui torture, peut-être, et l'aider à en ressortir.
Il y a finalement une notion d'entraide réciproque dans cette notion-là.
Oui. Pour moi, l'entraide, la bienveillance, l'entraide, la solidarité, l'attention, tout simplement, la présence à l'autre. Ça tombe bien que nous soyons ici. C'est vraiment ce qui m'anime et qui me fait mettre du sens et vraiment de la vie dans les relations que j'ai. Et je ne parle pas de mission, c'est un petit peu prétentieux, mais c'est vraiment ce que j'ai à cœur chaque jour en me levant et que j'essaye de faire vivre, de nourrir dans toutes les relations que je peux avoir, que ce soit des relations professionnelles ou des relations d'amitié ou des relations dans ma famille ou des relations autres, mais à chaque fois un niveau différent, mais en essayant, oui, d'essaimer des petites graines.
Alors on sent très bien, tout au long de la lecture de votre roman, qu'il est complètement rempli d'énergie dans tous les sens.
Oui.
Ça transpire à toutes les pages et on sent qu'effectivement il y a cette énergie donnée, cette énergie reçue et cette énergie partagée. Alors pour illustrer ce livre, vous avez choisi une couverture qui témoigne très bien de l'énergie et de la vitalité qui règne dans cet ouvrage. Est-ce que pour nos auditeurs, vous pourriez vous livrer à l'exercice un peu difficile de décrire cette couverture ?
Oui, bien sûr. Déjà, ce qu'il faut que je dise, c'est que c'est mon amie d'enfance qui est une artiste plasticienne qui se nomme Martine Lataste, qui l'a réalisée pour moi. Et personne d'autre mieux qu'elle, puisque c'est mon amie d'enfance, mon amie de toujours, on s'appelle les vieilles amies. Personne d'autre ne pouvait mieux retranscrire l'énergie qu'il y avait dans ce livre. Et elle me connaît par cœur, et elle a mis tout ce qui compte pour moi. Les ailes d'ange qui font vraiment écho à cette marraine qui veille sur Lucia Esperanza. Les plumes, parce que les plumes, ce sont vraiment des talismans dans ma vie. J'ai des plumes partout. Je vois non seulement comme de très bons augures toutes les plumes qui arrivent sur mon chemin, mais évidemment par rapport à l'écriture, la plume compte beaucoup. Et les cœurs, c'est l'amour avec un grand A, on en parlait tout à l'heure, et l'amour que j'essaye de diffuser et de partager chaque jour, et que j'ai mis vraiment de façon très forte dans ce livre.
Alors, je voudrais savoir combien de frères et sœurs avez-vous ?
Alors, j'ai une petite sœur qui a 3 ans et demi de moins que moi et un frère aussi plus jeune qui a 6 ans de moins que moi.
Et est-ce qu'il y a ce lien de sororité qui existe ?
Oui, très très fort. Alors, pour des raisons et avec des émotions différentes, parce qu'on a tous les trois des personnalités très très différentes et très complémentaires. Mais voilà, j'ai un lien très fort avec ma sœur depuis toujours. Mon frère aussi, et mon frère, c'est... Alors là, on ne peut pas parler de sororité, fraternité. Finalement, la fraternité, on l'utilise au sens large de l'humanité. Ce n'est pas un mot réservé aux hommes. Entre mon frère et moi, il y a quelque chose de très très fort qui fait que, au-delà du lien et du dialogue et des échanges parlés, il y a des ressentis, il y a presque une intuition qui fait que, à tout moment, je sais s'il va bien ou s'il ne va pas bien, même s'il est loin.
Vous n'avez pas besoin de parler, de communiquer. Vous ressentez.
Je ressens, et à chaque fois qu'on se retrouve, c'est que soit il a besoin de moi, soit je sais que là, je peux apporter quelque chose. Et en général, il n'y a même pas besoin de beaucoup se parler pour savoir.
C'est très joli. Mmh. Alors, en lisant ce livre, on essaye toujours de... C'est valable pour tous les livres, de qualifier un peu ce que l'on vient de lire. Alors, à la suite de la lecture, je m'interrogeais si c'était un livre sur... si ce n'est un manuel, au moins un livre relatif à la conduite de sa vie, au rapport avec les autres, un conte sur les âmes, ça peut être plus proche. En tout cas, certainement, ça tient un peu du voyage poétique, et ça tient aussi, puisque vous en parlez souvent, à cette communication que l'on pourrait appeler non-verbale, à ces notions de vibration. Donc c'est quelque chose qui tient de la communication, mais peut-être au-delà de la parole.
Oui, tout à fait. Je crois que ce qui m'a guidée quand j'ai écrit ce livre, ce que je ne vous ai pas dit, c'est... Enfin, si, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, mais il m'est vraiment tombé dessus. C'est-à-dire que, au moment où je me demandais si je serais capable d'écrire un roman, j'avais vraiment aucune idée d'un point de départ d'une histoire que j'aurais envie d'écrire. Et si je peux raconter l'anecdote, un matin, c'était en hiver, je me souviens que c'était en hiver 2021, fin d'année 2021, j'étais tout simplement chez le coiffeur. Et là, ma coiffeuse est en train de me faire mon shampoing, et tout à coup, j'ai senti, mais comme quelque chose qui m'arrivait, alors je ne peux pas dire d'où. Hein. Certains diraient que c'est un message divin, d'autres l'intuition, l'inspiration, d'autres que c'est vraiment son guide intérieur, parce qu'à ce moment-là, j'étais très calme et détendue et je ne pensais à rien. Et l'histoire m'est arrivée vraiment d'un coup, comme un téléchargement. Je parle souvent de téléchargement quand l'écriture, l'idée d'écriture m'arrive, parce qu'à chaque fois, c'est de la même façon que ça se passe, que ce soit pour des nouvelles ou mes romans, parce que j'en ai écrit un deuxième depuis. L'histoire m'est arrivée, alors pas dans son intégralité, mais j'ai eu les deux prénoms qui sont arrivés d'un coup, la Polynésie, New York, et Sœur d'âme, âme sœur, ça tournait en boucle dans ma tête. Et je l'ai mis de côté, ça m'a tellement surprise que je me suis dit non, c'est pas possible, c'est pas ça, c'est trop beau en fait. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai griffonné dans mon carnet, j'ai fait des schémas, des flèches, j'ai écrit les noms, tout ce qui m'était arrivé, et j'ai fermé ce carnet, et je j'ai plus voulu y penser, hein, une sorte de déni, non c'est trop beau, je vais pas faire ça. Et puis deux ou trois mois plus tard, c'est revenu, et là je m'y suis mise, et l'histoire a jailli vraiment en quelques mois, comme si c'était une urgence à ce que cette histoire existe. Et pour revenir à votre question, donc... voyage poétique, ça me plaît assez, parce qu'il y a beaucoup de poésie dans ce que j'écris, certainement dans celui-ci encore plus que dans les autres écrits. Et le livre est vraiment né comme ça, et on le remarque aussi à la présentation, la mise en page, les phrases très courtes. En fait, j'ai pas choisi ça. Vraiment, l'histoire s'est imposée comme ça. Centré au milieu avec beaucoup d'espace, ça a d'ailleurs dérouté pas mal de personnes au départ, et je crois que c'est cette façon d'écrire qui donne sa dimension poétique au texte. C'est un peu comme s'il y avait une respiration Moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça, comme quelque chose qui respirait. Et oui, je tiens à cette poésie qu'il y a dedans. Souvent, on m'a demandé pourquoi tu ne le remets pas en page de façon plus académique, entre guillemets. Peut-être que ça laisserait plus de chance à l'éditeur, à trouver un éditeur ou à ce que plus de gens le lisent. Mais non, en fait, ça, pour moi, ce serait le trahir.
Oui, alors c'est un petit peu sa marque de fabrique. Précisons aux auditeurs qu'effectivement, l'ensemble du texte sur toutes les pages est imprimé de manière centrée sur la page. Hein, c'est ce qui apporte une certaine originalité. Donc, dans ce livre, il y a beaucoup d'amour, l'amour que l'on partage. Et donc, je vous propose d'écouter quelqu'un qui a chanté l'amour, qui a chanté les gens qu'on aime, de Patrick Fiori.
J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève, sortir le chien, si j'en avais un. J'aurais pu m'inventer des inventaires, refaire et faire le point. Mais ce matin j'ai bien plus cher à faire, bam dabadabam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un beau requiem, et les dire c'est attendre la prochaine, remettre au lendemain. C'est bien plus simple d'émettre des haines, bien anonyme, tapis dans son coin. Écoule nos vies et l'eau des fontaines, la vie de quotidien. Et passe les jours et puis les semaines, bam badabadam. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou juste merci d'être ce qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous les mots que nous cachons. Ce matin j'irai dire aux gens que j'aime, ou comme ils comptent pour moi chaque instant, de mots doux c'est mieux qu'un grand chrysanthème, et le dire c'est le rappeler de temps en temps. J'aurais pu traîner le long de mes rêves, j'aurais pu l'air de rien. Attendre ici que la journée s'achève, bandabadaba.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Ce matin, j'irai dire aux gens que j'aime, au juste merci d'être ceux qu'ils sont, qu'ils changent mes heures amères en poèmes et tous ces mots que nous taisons. Les gens qu'on aime, de Patrick Fiori. Pourquoi ce choix ?
Mais parce que pour moi, c'est le plus important. Dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Pourquoi attendre ? Ce monde a cruellement besoin d'amour, toujours avec un grand A. Et pourquoi attendre quand on aime quelqu'un, quand on se rend compte qu'on ne lui a pas dit depuis longtemps ? Pourquoi attendre demain ?
Ça signifie qu'il faut le dire, il faut l'exprimer.
Alors pour moi, oui. Après, il faut. J'aime pas les « il faut ». Pour moi, c'est important. Et c'est vraiment ce que j'essaye de faire tous les jours. En laissant des petits mots, en envoyant des petits messages, en faisant des audios, en envoyant une carte postale, en faisant un petit cadeau, en envoyant un livre. Mais ma journée, mes journées sont jalonnées de « je t'aime ». Alors, pas forcément dit « je t'aime », en tout cas de marques d'affection et d'attention envers les gens que j'aime. Et ils ne sont pas là aujourd'hui, mais je vous assure qu'ils pourraient en témoigner.
Nous nous entendons et nous apprécions des mots très forts et une énergie vers les autres qui est très, très agréable à ressentir. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Stéphanie Antonucci pour son ouvrage « Sœur d'âme » paru en 2023. Alors Stéphanie, c'est un roman. On sent qu'il y a une expérience, pas purement autobiographique, mais une expérience de vie derrière, hein, qui sous-tend ce roman. Mais vous avez choisi de donner un aspect romanesque au texte. Alors, est-ce que vous pourriez nous préciser quel est le contexte du roman, au départ d'ailleurs?
Alors, l'histoire démarre à New York, et une des deux héroïnes, donc Speranza, est de l'autre côté du pont de Brooklyn et regarde la skyline de Manhattan, et complètement déprimée, et on sent tout de suite le mal-être qui est en elle. Alors sans dévoiler l'histoire, on comprend tout de suite que c'est une femme qui a vraiment un côté sombre très développé, qui est malheureuse, qui a une forte souffrance en elle, et on ne sait pas pourquoi, évidemment.
C'est quelque chose qui frappe à la lecture, parce que les mots et les phrases sont très fortes. Vous la dépeignez de la manière suivante. Vous dites « Personne n'est plus sombre que moi » en la faisant parler. « Personne n'est plus triste et résigné. Je suis le pessimisme personnifié. »
Oui.
Donc là, le lecteur sent qu'on part d'une situation un peu dure.
Voilà, c'est très dur pour elle. Et pourtant, elle s'appelle Speranza. Speranza en italien, ça veut dire espérance. Donc si j'ai choisi ce prénom, c'est pour ne pas la résumer à quelqu'un de... la limiter à quelqu'un de si sombre. C'est qu'il y a une part d'espoir, justement. Et donc, elle est de l'autre côté de ce pont. Elle regarde Manhattan et elle se noie un petit peu elle-même dans ses pensées sombres. Et puis, elle fouille dans un sac qui est un sac qui a une forte valeur pour elle. Alors, de la même façon, je ne vais pas dire pourquoi. Elle cherche dans ses affaires et elle tombe sur un objet qui tout à coup... ouvre comme une brèche dans son cœur et fait que elle va avoir une petite étincelle qui s'allume et qu'elle va basculer à la fois dans son passé et permettre à un nouvel horizon de s'ouvrir, avoir envie de retrouver quelqu'un, quelque chose.
Alors ça, c'est le premier aspect lié au premier lieu géographique que l'on découvre, donc qui est New York. Et un peu plus loin dans le texte, on découvre un autre lieu. Ce lieu, c'est la Polynésie, c'est Tahiti.
Oui.
Et ce lieu est lié à un autre personnage.
Oui. De l'autre côté de la planète, donc en Polynésie, se trouve Lucia. Et Lucia est assise sur un ponton. Elle regarde le lagon. Il fait beau. Les paysages sont magnifiques. Elle est vraiment, elle, dans une joie de vivre extrême. Elle est en méditation face à son horizon qui, pour le coup, est un horizon tellement vaste et lumineux. Elle est en pleine contemplation, à la fois du paysage et de sa propre intériorité. Et elle va très bien. Et elle s'appelle Lucia et son prénom vraiment révèle son essence même, c'est-à-dire toute la lumière qu'il y a en elle. Et de la même façon que Speranza, à l'autre bout de la planète, fouille dans ses affaires et se raccroche à un tout petit quelque chose qui fait vaciller son âme, Lucia aussi redécouvre une part un peu oubliée, un petit élément du passé qui fait que elles vont être peut-être reliées.
Alors effectivement, on sent qu'il y a une prise de conscience concomitante de la
oui.
part de ces deux héroïnes. Lucia, c'est un petit peu le contraire de Speranza, et vous la décrivez comme quelqu'un de très énergique, de très tourné vers les autres, et dont on pense a priori qu'elle ne se laisse pas abattre, mais finalement on va apprendre dans l'histoire que ça a été difficile aussi pour elle. Parce qu'initialement, elle se décrit comme suit: « J'ai naturellement accepté la mission qu'elle m'avait confiée, vibrer, rayonner et diffuser l'amour. Je n'ai qu'une vocation, celle de diffuser ma lumière. » Donc ça, c'est une définition de sa personnalité intrinsèque qui nous permet d'introduire la référence à un troisième personnage.
Oui.
Ce personnage est très important. Ce personnage pourrait être comparé à une référence, un guide spirituel. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques précisions sur ce personnage?
C'est la Zia Rita, qui est leur marraine, qui était leur marraine à toutes les deux, qui les a élevées ensemble dans ces liens de sororité, qui leur a donné tout l'amour qu'elle avait dans son cœur pour faire en sorte, en tout cas c'était son vœu, le vœu qu'elle ne soit jamais séparée, en tout cas qu'elle ne souffre jamais de solitude et qu'elle puisse, dans leurs échanges et aussi dans ce qu'elles avaient à donner au monde, ne laisser transparaître que cette lumière et cet amour que la Zia Rita leur avait donné. Alors la réalité en a été autrement, mais cette vieille marraine, c'est vraiment un personnage clé dans la relation entre Lucia et Speranza, parce que c'est elle qui les a construites, c'est elle qui les accompagne tout au long du roman, tout au long de leur vie. Et qui les accompagne de très loin, parce qu'au moment où on découvre l'histoire, la Zia Rita n'est plus. Elle est décédée depuis quelque temps. Et pourtant, sa présence est encore très très forte. Et c'est ce guide qui va aider Lucia et Speranza à penser leurs blessures et à peut-être se rapprocher.
Alors, rien que le nom de Zia Rita, qui est quand même la sainte et la patronne des causes impossibles, donne la mesure de la situation, d'une part, et donne aussi la force et les possibilités que peut procurer l'ensemble de ces recommandations, de ces préceptes, entre guillemets, pour aborder la vie dans de bonnes conditions et surtout pour continuer à transmettre cette énergie avec les gens qu'on rencontre. Donc c'est quelque part un repère qu'elles ne vont jamais perdre.
Oui, c'est ça, c'est une boussole, un repère, oui, et c'est même comme si la Zia Rita avait tissé, j'en parle beaucoup, avait tissé des fils d'or entre elles qui fait qu'elles ne peuvent pas être réellement séparées et que, quelle que soit la direction que choisisse l'une, bien l'autre est liée et va finir par la rejoindre, que ce soit spirituellement, énergiquement ou physiquement finalement. Elles sont liées, elles vont se rejoindre.
Et ce sont donc des liens qui ne peuvent pas être rompus.
Non.
Voilà. Et vous écrivez: « Le jour où elle a cousu d'or nos cœurs endoloris, celui où elle a noué nos âmes et nos mains. » C'est donc le départ de ce qui allait les souder à jamais.
Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire juste avant, sur la patronne des causes impossibles. C'est vraiment un message aussi que j'essaye de transmettre, c'est que pour moi, rien n'est impossible. Et ça, je le répète souvent, y compris à mes élèves, c'est que tant qu'une histoire n'est pas terminée, il reste un espoir et rien n'est impossible. parce qu'une petite lumière peut s'allumer à tout moment et que l'on se sente guidé ou pas, finalement, on a tous nos propres ressources pour faire en sorte que l'impossible devienne possible.
C'est un très joli message, effectivement. Je voulais préciser aussi, donc nous avons dit que en termes de lieux, il y avait New York, il y avait la Polynésie. Il y a deux autres lieux qui sont importants, c'est la ville de Sienne, en oui. Italie, et le Canada. Alors, sans rentrer dans les détails, le fait de nommer et de mettre en place ce roman dans ces quatre lieux, c'est, on pourrait dire, c'est aux quatre coins de la planète.
Oui.
Et ça, c'est quelque chose qui vient soutenir et renforcer cette notion que, au-delà de la distance, au-delà de la séparation, la communication est possible, et surtout que ce type de communication, les océans, les montagnes, rien ne pourra se mettre en travers.
Rien ne peut empêcher des âmes qui sont liées, des cœurs qui sont liés, rien ne peut les empêcher de communiquer, de se retrouver, d'être ensemble finalement, même par-delà les océans, oui. Ça, j'y crois beaucoup parce que je l'expérimente dans ma propre vie. Il y a des personnes avec qui je suis mais extrêmement liée, des personnes que je n'ai pas besoin d'appeler ou à qui je n'ai pas besoin forcément de parler tous les jours. Et pourtant, je sais qu'elles sont là. Elles savent, ces personnes, que je suis là. Et quand l'une d'entre nous flanche, parce qu'on a tous des moments difficiles dans nos vies, comme s'il y avait une magie, finalement, un coup de fil arrive, un petit mot, une connexion se fait et la vie apporte la preuve que l'autre est toujours là.
Alors, il y a un deuxième aspect dans cette notion de partage et d'amour, c'est le fait, ce besoin d'être aimé, quelque part, besoin d'être aimé que chante très bien Louis Chédid dans « Tout ce que l'on veut dans la vie ».
Un baiser, rien qu'un seul, aussi léger soit-il, à peine le poids d'une feuille, la caresse d'un cygne, écouter battre son cœur et mourir de bonheur. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis, qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face. Tout ce qu'on veut dans la vie, corps à corps, bouche à bouche, que l'on s'adore, que l'on se touche, tout ce qu'on veut dans la vie. Revers de la médaille, même si ça fait mal, parfois, parfois, pour un simple je t'aime, être prêt à faire n'importe quoi. Trop aimer, trop s'étreindre, qui oserait s'en plaindre. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime. Même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Des parents, des amis, qui nous comprennent. Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on s'embrasse, qu'on s'enlace, main dans la main, face à face.
Parole d'auteur. Philippe Gilbert.
Tout ce qu'on veut dans la vie, c'est qu'on nous aime, même si c'est pour la nuit, on prend quand même. Louis Chédid résume bien ce besoin d'être aimé, ce besoin de partager.
Oui, c'est finalement, le désir de chaque être humain, c'est d'être aimé, de recevoir de l'amour. Comment peut-on aimer à son tour si on ne se sent pas aimé? Je crois que plus on est aimé, plus on s'aime soi-même aussi, parce que finalement, le premier amour que l'on peut rencontrer, c'est celui que l'on s'accorde. Plus on reçoit d'amour, plus on peut le démultiplier et à son tour le redistribuer. Et je crois qu'on cherche tous ça, et pourtant l'amour peut terriblement faire souffrir, mais c'est un risque à prendre. C'est vivre finalement, ce risque-là, c'est vivre, rencontrer l'amour sous toutes ses formes, et prendre tout ce que l'on peut prendre, recevoir, pour pouvoir le redonner.
Alors ce qui signifie bien, et de manière très explicite dans vos propos, c'est que il ne suffit pas d'être aimé, il faut aussi aimer. C'est-à-dire qu'il faut être engagé dans une relation de réciprocité, et que si cette relation n'est pas, je dirais, complètement équilibrée, il y aura quelque chose qui va blesser. Et quelque part, les auditeurs et futurs lecteurs de votre livre comprendront qu'effectivement, c'est cette notion d'équilibre qui va, comment dire, atteindre pendant un certain temps, détériorer les relations entre les deux sœurs.
Oui, oui, oui. Et par rapport à ce qu'on disait au tout début, en parlant des deux personnages et leurs traits de personnalité, c'est vrai que j'ai poussé à l'excès les traits de personnalité, c'est une volonté, hein. Et tout le cheminement de ce roman, tout le voyage aussi, au travers des différents lieux, et puis de leur quête, c'est finalement de tendre vers plus d'équilibre et d'apporter plus de nuances aussi, à la fois dans leur ressenti, dans leur réaction, et puis dans leur relation, pour finalement retrouver une certaine harmonie. C'est ce qu'elles cherchent.
Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Stéphanie Antonucci pour son ouvrage « Sœur d'âme » paru en 2023. Stéphanie, il y a un autre personnage, entre guillemets, très très important dans votre roman. On pourrait le qualifier de l'oracle. Il est matérialisé par un objet particulier que vous pourriez peut-être nous décrire.
Oui, l'oracle, c'est un cadeau que la Dia Rita leur a fait lorsqu'elles étaient enfants, très petites même, et un vieil objet qui n'a pas servi depuis longtemps. Et en fait, au moment où cette brèche s'ouvre dans chacun de leurs cœurs, l'oracle reprend un peu sa place. Et chacune, de son côté, ressent le besoin de tirer des cartes régulièrement, comme un guide, comme une direction à donner à chaque journée ou à chaque nouvelle étape de cette quête. Et de son côté, Lucia, elle, a toujours été plutôt accompagnée par cet oracle. Elle l'avait intégrée dans sa vie, alors que Speranza, elle l'a complètement rejetée, de la même façon qu'elle a rejeté beaucoup de choses et beaucoup d'êtres de sa vie. Et dans ce moment-là, l'oracle reprend sa place des deux côtés, dans la vie des deux sœurs. Et finalement, il donne une direction à ce qu'elles recherchent, une direction à leurs possibles retrouvailles, et l'oracle donne aussi une direction au roman, parce que d'un chapitre à l'autre, on suit un peu la voie VOIE de l'oracle à travers sa voie VOIX, et finalement, cet oracle qui était si vraiment si précieux pour la Dia Rita, c'est un peu comme si c'était la voix de cette vieille marraine qui s'exprime au travers de chacune des cartes qui sont tirées. Et tout au long du roman, chacune des cartes qui est tirée a vraiment sa raison d'être et est une clé à la fois de compréhension par rapport à leur cheminement, par rapport à leur histoire passé qui rejaillit et qui a besoin d'être apaisé. Et, et il apporte petit à petit les solutions et les réponses qu'elles cherchent toutes les deux.
C'est l'impression qui est donnée, c'est peut-être une sorte de balisage d'un chemin du bonheur dans la vie. Et les petits textes qui reviennent régulièrement de chapitre en chapitre ont la forme un petit peu d'un précepte, hein, ou d'une recommandation.
Oui.
Alors tu te laisses porter par l'amour, tu cultives l'amour pour toi, tu sais où tu vas, tu libères tes peurs, tu fais face, etc., etc. Donc effectivement, cette notion de guide et d'accompagnement dans la vie, quelque chose qui permet de se repérer et quelque chose qui permet peut-être aussi de temps en temps de pouvoir reprendre son souffle quand on est découragé.
Oui, oui, oui. Dans mon livre, c'est par ce biais-là, cette réassurance, cet accompagnement. Dans la vie de quiconque, cet accompagnement peut prendre diverses formes. Ça peut être la présence d'un ami, ça peut être la foi en une religion, ça peut être la foi en la vie de façon générale, ça peut être une lecture. Mais à un moment donné dans son existence, qui n'a pas besoin d'un support, de quelque chose qui peut l'apaiser, qui peut, oui, lui donner une autre direction et aussi une confiance en un chemin qui est finalement celui de son cœur.
Alors, vous voyez, enfin, on s'aperçoit en tant que lecteur de l'importance du choix des mots. Et dans votre roman, il y a naturellement des thèmes récurrents. Cette allusion à la vibration avec les autres, avec les animaux, puisqu'à un moment donné, vous parlez de communication avec les dauphins, ce qui est par ailleurs assez connu. Donc vous vous référez à cette notion de vibration et vous avez tout un vocabulaire récurrent dans ce livre qui est intéressant à regarder de près. Vous avez souvent le mot connexion qui revient, vous avez le mot abandon. Alors, amour, évidemment, avec des déclinaisons âme sœur, ange gardien, lumière, lien de sororité, ressourcé, rituel, rupture. Donc, tous ces mots sont extrêmement bien choisis parce qu'ils vont tous dans le même sens pour soutenir à la fois la trame et au-delà de la trame, le ressenti, et on comprend la finalité de cet écrit. Vous avez beaucoup travaillé sur le vocabulaire lui-même ?
Pas tant que ça. Vraiment, je le redis, les mots m'arrivent et me sont comme imposés. Après, j'aime les mots, j'aime les sonorités, je lis beaucoup. Et le sens des mots est vraiment très important pour moi. Ces mots-là, tout ce lexique que vous venez d'écrire, évidemment, fait sens par rapport à l'histoire, mais ce sont évidemment des mots qui me sont chers et qui me guident moi aussi et qui font écho dans ma propre vie. Je me sens profondément connectée au monde qui m'entoure, à la nature, aux autres. À tout cet amour qui circule, je le sens. Je sens qu'il passe à travers moi. Je sens cette lumière qu'il y a en moi, qui m'arrive de je ne sais où, mais qui est là et que j'ai envie de faire rejaillir sur les autres.
Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous aviez eu l'impression de télécharger l'histoire. Alors, moi, je peux témoigner auprès des auditeurs qu'on a vraiment l'impression de télécharger de l'énergie en lisant votre roman. Et juste pour le plaisir, je vais vous faire quelques citations de ce livre. « Envoyer de l'amour, cela ne suffit pas. Être porté par l'amour, cela signifie bien plus que cela. La serrant contre moi, j'ai absorbé sa douleur, j'ai tenté d'éponger son malheur. » Jour cruel, point final ou point de suspension à notre histoire. Je suis resté en apnée seul avec moi-même. Donc, on est dans un vocabulaire très précis, très choisi et bienveillant, avec le résultat de procurer une grande sérénité au lecteur, ce qui est réussi totalement. Alors, Stéphanie Antonucci, je voulais savoir, on a dit aux auditeurs que c'était votre premier roman. On espère qu'il y aura un second.
Le second est en train d'être publié. Je peux déjà vous en dévoiler le titre. Donc, mon nouveau roman s'appelle Mademoiselle Danse, mon héroïne Barbara. Il se déroule principalement à Venise, car l'Italie, c'est vraiment mon pays de cœur, ce sont mes origines, ce sont mes parents, mes grands-parents. D'ailleurs, Rita, c'était le prénom de ma grand-mère. Donc Barbara vit à Venise, c'est une ancienne danseuse de l'opéra. Elle vit à Venise avec son mari, Mattia. Ils vivent une vie parfaite, enfin le croit-elle. Et puis le livre démarre alors qu'elle fait un malaise. Et en quelques jours, elle remet tout en question, son passé de danseuse classique, sa vie à Venise, sa vie sous les projecteurs, sa vie avec son mari, et elle quitte tout. Et tout le roman, c'est la redécouverte d'une autre forme de danse, que je ne vais pas dévoiler ici, une remise en question totale, et là aussi une histoire de paix avec le passé pour se libérer d'une prison dorée dans laquelle elle s'est elle-même enfermée.
Donc, nous attendons avec impatience Barbara.
Merci.
Merci Stéphanie Antonucci d'être venue à Parole d'auteur pour nous présenter votre livre Sœur d'âme, paru, je le rappelle, en 2023. Je remercie les auditeurs pour leur fidélité. Merci à Christophe Aubry, à la technique. Au revoir à tous.